La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, on passe de la jubilation à la consternation.
Oui, manifestation à Londres, levée de bouclier en Écosse, appel à un nouveau référendum. Depuis vendredi, le Brexit génère une énorme vague de colère et de frustration au Royaume-Uni, comme le rapporte le site Big Brother. Moins de 24 heures après les résultats, les réseaux sociaux ont même vu fleurir les messages d'internautes ayant voté pour la sortie du pays, exprimer leurs regrets entre ceux qui pensaient que le vote pour le maintien était de toute façon acquis, sondage à l'appui, que leur voix ne pèserait pas dans la balance, ou ceux qui n'en avaient pas anticipé les conséquences, comme la chute des bourses et la démission de leur Premier ministre. Tous prennent la mesure, après coup, de l'onde de choc que leur vote a provoqué. Sans oublier ceux qui se sentent également trahis, certains ont notamment déchanté, après que le chef du parti UKIP, le très europhobe Nigel Farage, a reconnu en direct à la télévision que l'un des arguments phares des pro-Brexit, donner à la sécurité sociale britannique les 350 millions de livres versés à l'UE chaque semaine, et bien que cet argument, en fait, était faux. Alors bien sûr, ces électeurs repentants ne représentent qu'une minorité sur les 17 millions d'électeurs qui ont voté Leave, mais ils témoignent de l'incertitude dans laquelle se sont trouvés certains Britanniques face au Brexit. Et surtout des nombreuses interrogations qui persistent quant à ses conséquences. En témoigne le pic de 250% de recherches qu'a enregistré Google le soir du 23 juin, c'est-à-dire le jour même du référendum, juste un peu avant la fermeture des bureaux de vote, sur des questions comme « Que se passe-t-il si nous quittons l'Union européenne ?» Évidemment, il était sans doute un peu trop tard pour se poser la question, mais comment leur en vouloir alors même que les politiques ayant fait campagne pour le Brexit n'ont visiblement pas trouvé eux non plus la réponse. Eux qui étaient pourtant si pressés de reprendre le contrôle de leur pays, sont-ils montés au créneau? Non, bien au contraire, il n'y a pas d'urgence et rien ne va changer à court terme, expliquait notamment Boris Johnson dès vendredi. En d'autres termes, depuis leur victoire, les partisans du Brexit, dans une impréparation totale, font tout pour temporiser. Note le correspondant à Londres du quotidien suisse, le temps, au lieu de triompher, il semble comme pris de vertige, dit-il, devant l'ampleur de la tâche. Sans compter qu'il existe, qui plus est, un profond désaccord au sein même du camp du Brexit. D'un côté, un groupe à tendance libertaire prône l'ouverture au monde et une large dose de dérégulation. Et puis de l'autre se trouvent au contraire les déçus de la mondialisation, ceux qui rêvent de revenir en somme à un Royaume-Uni du siècle dernier et veulent fermer les frontières. Ou quand déjà les premières fissures dans le camp du Brexit apparaissent. Enfin, outre ce dilemme au cœur même de l'idée donc du Brexit, il existe aussi un paradoxe qu'a bien compris d'ailleurs un chroniqueur du Irish Times. Une fois au pouvoir, les militants du Out seront devenus le nouvel establishment, c'est-à-dire ce même establishment en réalité dont ils ont dit à tout le monde qu'il fallait s'en méfier. Enfin, ultime paradoxe et non des moindres, le Brexit ne signifie pas que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, mais désormais la fin possible du Royaume-Uni, où quand le vote contre l'UE pourrait très bien se transformer en vote contre le Royaume-Uni, redoute The Financial Times. Et pourquoi? Parce que les pro-Brexit sont essentiellement des nationalistes anglais. Or, l'Écosse et l'Irlande du Nord veulent rester dans l'Union, à l'instar de Londres. Une pétition intitulée L'Independence a même été lancée sur la plus célèbre plateforme de pétition en ligne. Objectif, la prise d'indépendance de la capitale et son adhésion à l'Union européenne en vertu d'un raisonnement imparable. Puisque la capitale a voté Remain à près de 60%, dès lors, pourquoi ne pas se séparer du reste du pays et vivre son propre destin? Une pétition évidemment fantaisiste. En revanche, qui reprocherait aux Écossais de privilégier l'Europe à une Angleterre repliée sur elle-même, interroge toujours The Financial Times. Combien de temps les Anglais seront-ils encore prêts à financer l'Irlande du Nord? En clair, la sortie d'une union pourrait donc entraîner aussi la mort d'une autre union. Le Royaume-Uni pourrait se désintégrer, renchérit à son tour le site de la Deutsche Welle, car une majorité des Écossais souhaite demeurer au sein de l'Union. De même, les appels à l'autonomie en Irlande du Nord pourraient devenir plus forts. Une scission est donc probable.
Et puis l'autre incertitude, Thomas Cluzel, largement relayée dans la presse, c'est évidemment celle qui touche à l'Union européenne.
Oui, quand le magazine allemand Der Spiegel titre « L'Europe est morte », son confrère espagnol El Correo juge que l'Europe est en dépression. L'UE s'est elle-même brexitée, écrit Il Sole en Italie. De maison commune, l'UE est devenue une maison en cours de démolition, titre Die Presse. L'UE est bien parti pour connaître un processus de balkanisation, redoute pour sa part l'écrivain et grand reporter Paolo Rumis dans la Repubblica. Mais quel est donc ce bruit de verrou, ce cliquettement rouillé de cadenas, de barbelés, de clôtures frontalières que l'on entend de la Grande-Bretagne à la Grèce, de la Catalogne aux confins de la Russie? Quelle est donc cette banalisation invasive du langage à laquelle nous assistons, cette diffusion d'alternatives violentes dissimulées derrière des termes inoffensifs du jargon informatique « in, out, leave, remain » D'où vient viennent l'agressivité meurtrière et ses sigles obscènes tels que Brexit ou Grexit qui ne font pas justice à la complexité des événements et surtout comment nommer l'illusion qui s'impose aujourd'hui aux nations, cette volonté de croire qu'on serait mieux loti seul. J'ignore pourquoi nous hésitons autant, dit-il. Le terme adéquat existe déjà depuis un quart de siècle, voire peut-être plus. Ce terme, c'est balkanisation. Je sais qu'il est déplaisant d'être assimilé aux Balkans, dit-il. Il est réconfortant de se représenter cette région comme un foyer de tribalisme localisé contre lequel l'Europe civilisée serait immunisée. Mais notre rêve européen pourrait se déliter ainsi dans le silence atterré de son appareil bureaucratique et monétaire suivant un scénario parfaitement balkanique.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, 7h27 sur France Culture.